Chapitre 57. Furtif comme une ombre, le frère Narève s'arrêta derrière Richard. Il venait souvent inspecter le travail des sculpteurs, mais c'était la première fois qu'il s'intéressait à celui du sourcier déchu.
« T'ai-je déjà rencontré ?»
demanda Narève de sa voix rauque. Richard se retourna, baissa le bras droit qui tenait un marteau, et sans lâcher son burin, s'essuya le front avec le dos de la main gauche.
« Oui, frère Narève, je livrais du métal à l'époque et j'ai eu l'honneur de vous croiser chez le forgeron. »
Soupçonneux, Narève plissa le front. Sous son regard inquisiteur, Richard ne broncha pas.
« D'abord livreur, puis sculpteur.
J'ai un certain talent qui m'autorise à contribuer joyeusement au bien-être de la communauté. » Je remercie l'ordre de me permettre de me sacrifier dans cette vie pour être récompensé dans l'autre.
« Joyeusement ?»
répéta Neil en avançant vers Richard. Il suivait presque toujours son maître, plus discret encore que lui.
« Tu prends plaisir à sculpter ?»«
Oui, frère Neil. »
En réalité, Richard était heureux de savoir qu'Alan vivante. Le reste ne l'intéressait pas. Prisonnier de Nietzsche, il faisait tout ce qu'il fallait pour que sa bien-aimée survive et ne se soucie de rien d'autre. Neil eut un petit sourire supérieur. Il venait souvent donner des directives au sculpteur et Richard avait fini par bien le connaître. Pour la confrérie de l'ordre, les statues étaient d'une importance vitale, une question de vision du monde, tout simplement. Neil était un sorcier, pas un magicien, et il semblait avoir un besoin compulsif d'affirmer son autorité sur Richard. Bien qu'il ne lui opposât aucune résistance, le prisonnier de Nietzsche restait pour lui une victime de choix. Le frère Narève croyait fermement aux âneries qu'il prêchait. Pour lui, l'homme était mauvais et il devait se sacrifier au nom des autres. Il n'y avait rien de joyeux dans sa foi, au moins aussi sinistre que lui. Neil était plus exubérant. Il adhérait à la doctrine de l'ordre avec un enthousiasme et une arrogance hors du commun. Convaincu que le salut du monde dépendait de brillants intellectuels tels que lui, il se rengorgeait ouvertement d'occuper une position de pouvoir, sans omettre de témoigner toute la déférence voulue à Narève, bien entendu. Richard avait souvent entendu Neil se vanter qu'il n'hésiterait pas à faire couper la langue d'un million d'innocents si cela pouvait empêcher un seul blasphémateur de proférer d'atroces contre-vérités sur l'ordre. Avec son visage de jeune homme, une simple façade puisqu'il avait longtemps vécu au palais des prophètes selon Nietzsche, ce fanatique accompagnait aussi souvent que possible son supérieur, dont il guettait sans cesse l'approbation. En somme, il était le bras droit de Narève, ou plutôt son âme damnée. S'il avait l'air juvénile, ses idées étaient archaïques, car la tyrannie, malgré ce qu'il semblait croire, n'avait pas été inventée par l'ordre. Et la version de Jagang, comme les autres, n'apporterait pas le bonheur à l'humanité. Neil s'en fichait parce qu'il croyait passionnément à sa cause. La vérité révélée, pour lui, était comme une femme aimée qu'on prend avec un désir jamais épuisé. Assez logiquement, il ne supportait pas la contradiction, si raisonnée fût-elle. Dans son exaltation, il était prêt à écraser, torturer ou détruire tous ceux qui n'étaient pas disposés à partager sa foi et à s'agenouiller devant sa cause. La misère, les échecs, le malheur des gens, les massacres, rien ne parvenait à entamer ses convictions. Et il était capable de proférer les pires énormités pour justifier les calamiteuses interventions de l'ordre dans l'Ancien et le Nouveau Monde. Vêtu d'une soutane marron à capuche comme Neil, les autres disciples composaient une incroyable brochette de crétins cruels, pompeux, idéalistes, méprisables, haineux et, le pire de tout, dangereusement hallucinés. Tous méprisaient souverainement les gens ordinaires. En conséquence, tout ce qui pouvait être agréable pour le peuple les révulsait. Car les hommes et les femmes, à leurs yeux, ne valaient rien sauf s'ils consentaient à se sacrifier pour l'abstraction commode qu'ils appelaient le bien commun. Ces imbéciles vénéraient le frère Narève comme s'il avait été le représentant du Créateur dans le royaume des vivants. Chaque mot qui sortait de sa bouche les plongeait en transe, et ils se seraient sans doute volontiers tranché la gorge s'il le leur avait demandé. Neil était à part parce qu'il accordait au moins autant d'importance à ses propres palinodies. Mais après tout, il fallait bien qu'un chef ait un successeur, et dans l'esprit de Neil, en tout cas,
L'identité du remplaçant de Narev ne faisait pas de doute.
Joyeusement est un mot étrange dans ce contexte,
dit Narev après une longue réflexion. Il désigna les monstrueux personnages que Richard était en train de sculpter.
Tout cela te réjouit ?
Richard tendit un bras vers la flamme qui incarnait la lumière du Créateur.
Voilà qui me rend joyeux, frère Narev. Montrer des hommes et des femmes tremblant de peur quand ils découvrent la perfection de la lumière, je jubile à l'idée de faire découvrir au peuple la perversité naturelle de l'humanité. Car ainsi, il comprendra que servir l'ordre est la seule voie qui mène à la rédemption.
Le frère Narev ne parut pas convaincu. Ses yeux noirs rivés sur Richard exprimant une méfiance et une appréhension qui ne lui étaient pas habituelles. Cet homme ne tremblait devant personne, et pourtant ce sculpteur l'inquiétait. Mais il ne parvenait pas à trouver la faille dans son discours enflammé à la gloire de l'ordre.
« Si tu vois les choses comme ça, je suis d'accord, mon cher. Eh bien, désolé, mais j'ai oublié ton nom. Quelle importance, au fond. Les individus ne comptent pas. De simples maillons de la grande chaîne qu'on appelle l'humanité, ou mieux encore, les modestes rayons d'une gigantesque roue. L'important, c'est qu'elle tourne, n'est-ce pas ?
Je m'appelle Richard Cypher.
Oui, oui. Je suis content de ton travail, Richard Cypher. Tu as un don certain pour représenter nos pitoyables frères humains.
Richard s'inclina humblement.
Je n'y suis pour rien, frère Narev, car le Créateur guide ma main.
Sa méfiance envolée, sans doute à cause de l'expression béate de Richard, le chef de la confrérie s'éloigna, les mains croisées dans le dos. Comme un gosse qui ne veut pas être trop loin des jupes de sa mère, Neil le suivit d'un pas sautillant. À un moment, il se retourna pour foudroyer du regard le sculpteur trop zélé. Richard n'aurait pas été surpris qu'il lui tire la langue. Selon ses observations, 50 disciples gravitaient autour du frère Narev. D'après Victor, une fonderie avait moulé en or pur une cinquantaine d'exemplaires de la rune géante dont il avait fabriqué le modèle. Le forgeron pensait qu'il s'agissait d'objets décoratifs. Sur le chantier, plusieurs avaient déjà été installés au sommet de grandes colonnes, qui semblaient devoir délimiter la circonférence d'une immense place. Des ornements ? Richard en doutait fort. Haussant les épaules, il recommença à ciseler une jambe distordue. Au moins les siennes le portaient de nouveau. Il avait fallu du temps, mais il était enfin guéri. Ceci dit, son travail valait à peine mieux qu'un séjour en prison. Tous les jours, des gens affluaient pour admirer les œuvres en cours de sculpture. Certains s'agenouillaient à même les pavés et priaient jusqu'à ce que la peau de leurs genoux éclate. D'autres apportaient des carrés de tissu pour s'épargner ce désagrément. Sur le visage de ces malheureux, Richard lisait souvent un vague espoir, comme s'il venait là pour trouver la réponse à une question qu'il ne parvenait même pas à formuler. Leur regard vide, quand ils partaient, lui déchirait le cœur. Autant que les prisonniers torturés dans les donjons, ces gens étaient vidés de leur sang par l'ordre. La sangsue la plus insatiable que le monde eût jamais portée. Quelques curieux se massaient derrière les sculpteurs pour les regarder travailler. Depuis 2 mois qu'il œuvrait sur le chantier, Richard était devenu une sorte d'attraction. Parfois, les spectateurs pleuraient en découvrant les personnages que faisait naître son burin. Même s'il haïssait les horreurs qu'il devait sculpter, Richard adorait de plus en plus travailler la pierre. Sous ses mains, le marbre paraissait vivant, et il s'arrangeait toujours pour gratifier ses personnages d'un détail qui leur rendait discrètement grâce. Un œil plein de sagesse, un index qui ne ressemblait pas à une serre, une poitrine où pouvait battre un cœur digne de ce nom. Richard donnait naissance à des monstres de pierre pour sauver la vie de Callan. S'il le fallait, il continuerait jusqu'à la fin de ses jours. Et tant pis si ses spectateurs en avaient les larmes aux yeux d'effroi. Au fond, il pleurait à sa place, puisqu'il ne lui était pas permis de manifester le dégoût que lui inspiraient ses propres créations. Cette maigre consolation lui permettait de supporter l'enfer qui était devenu sa vie. Car il souffrait à chaque seconde de devoir transmettre fidèlement et avec tout son talent une vision du monde qui le répugnait. Les maîtres qu'il servait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement
incarnait tout ce qu'il détestait, et il devait se taire pour ne pas mettre en danger la seule personne qui compta à ses yeux. Au crépuscule, les sculpteurs rangeaient leurs outils dans de simples boîtes de bois et rentraient chez eux. Dès l'aube, ils se remettraient à l'ouvrage, chacun retrouvant les créatures de cauchemar qui avaient sans nul doute hanté jusqu'à son sommeil. L'architecte déterminait les zones à couvrir de statues et c'était lui qui décidait de leur taille. Pour le reste, les disciples du frère Narev détenaient l'autorité et c'était leurs horribles fantasmes que Richard devait immortaliser dans la pierre. La laideur et la violence les fascinaient. Étrange pour des hommes qui tenaient d'interminables discours sur la charité et l'esprit de sacrifice. Le bloc que sculptait Richard était destiné à l'entrée principale du fief. Un demi-cercle de colonnes reliées par un mur d'enceinte formerait le fond de l'esplanade. Richard avait été chargé de sculpter les scènes qui orneraient le frontispice de l'arche qui dominerait le grand escalier de marbre donnant accès à la place. Cette entrée devrait immédiatement préparer à l'esthétique très particulière du palais. Selon Neil, le frère Narev entendait que la statue qui se dresserait au centre de l'esplanade soit la plus frappante de toutes. En l'apercevant, les visiteurs seraient accablés par le poids de leur culpabilité et révulsés par l'ignoble perversité de l'humanité. Entourée d'un cadran solaire, cette œuvre colossale montrerait des pécheurs prosternés devant la lumière du Créateur. Un appel au sacrifice et à l'oubli de soi des plus frappants. Les descriptions détaillées de Neil avaient donné la nausée à Richard. Dernier à quitter le chantier, il s'engagea sur la route sinueuse qui conduisait à l'atelier de Victor. Avec l'arrivée de l'automne, la forge redevenait un endroit fréquentable, car on n'y mourait plus de chaud. Dans la région, les hivers n'étaient jamais très rudes, mais quand on en serait là, venir se réchauffer dans l'atelier les jours de pluie aurait certainement son charme.
« Richard !»
s'écria Victor dès qu'il aperçut son ami. Sans nul doute, il devinait la raison de sa visite.
« Je suis sacrément content de te voir. Va donc t'asseoir devant la porte de derrière de l'entrepôt. Quand j'aurai fini d'entasser le charbon pour demain, il se peut que je vienne te tenir compagnie. »«
J'en serai ravi, »
répondit Richard avec un sourire. Il fit le tour de l'atelier, ouvrit la double porte de l'entrepôt et admira le bloc de marbre à la lueur du soleil couchant. Il venait souvent contempler le monolithe. Après une journée passée à créer des horreurs, imaginer la beauté qui se cachait encore dans les entrailles du marbre lui remontait le moral. Parfois, cette manière subtile d'équilibrer les choses lui semblait la seule façon de ne pas sombrer dans la folie. Il approcha du bloc, le caressa du bout des doigts et frissonna. Quand il se retourna, il découvrit Victor, campé sur le seuil de l'entrepôt, un sourire amical sur les lèvres.
« Après le musée des horreurs, tu te purifies l'œil devant ma statue ?»
Richard hocha simplement la tête.
« Allez, viens t'asseoir avec moi et savourer un peu de lardo. »
Les deux amis s'assirent à leur place habituelle et mangèrent en silence.
« Tu n'aurais pas besoin de venir ici pour te purifier, »
dit Victor quand ils eurent fini de se régaler.
« Ta femme aussi est très belle. »
Richard ne fit pas de commentaire.
« Tu ne m'avais jamais parlé d'elle ?» À vrai dire, j'ignorais son existence, jusqu'au jour où elle est venue me voir. Je supposais que t'étais marié, et je pensais que ton épouse te ressemblait. Pourquoi ne l'as-tu même jamais évoquée devant moi ?
Richard haussa les épaules.
J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais elle n'est pas le genre de compagne que j'imaginais pour toi. Tu permets que je te pose quelques questions à son sujet ?
Victor, je suis fatigué. « Et je préférais ne pas parler d'elle. De toute façon, il n'y a rien à dire. C'est ma femme et voilà tout. »«
Peut-être, mais il n'est pas bon pour un homme de sculpter des ignominies pendant la journée et de rentrer chez lui pour retrouver une... Ah, bon sang, quelle mouche me pique. Excuse-moi, Richard, je raconte n'importe quoi. Nietzsche est une très jolie femme. »«
C'est ce qu'on dit, oui. »«
Et elle se soucie vraiment de toi. »
Là non plus, Richard n'émit pas de commentaire.
Ishak et moi avons tenté de te tirer de prison en proposant des pièces d'or. Ça n'aurait pas suffi avec ce crétin pompeux de Muskin. Nietzsche l'a admirablement bien manœuvré. Sans elle, tu aurais fini inhumé dans le ciel.
Donc elle a parlé de mes talents de sculpteur pour me sauver?
Exactement. C'est elle qui t'a fait libérer et qui t'a obtenu ce travail.
Victor attendit une réaction de son ami, n'en obtint aucune et se résigna à changer de sujet.
Comment trouves-tu mes nouveaux burins?
Excellent, mais il m'en faudrait un avec une lame plus fine.
Tu l'auras, ne t'inquiète pas. Tiens, prends une autre tranche de lardeau.
Et tes livraisons de métal, ça se passe bien?
Ne te fais pas de soucis. Ishak te remplace très bien. Il n'est pas aussi bon que toi, mais il se débrouille. Il m'approvisionne bien et tout le monde l'apprécie. Lui, il se réjouit d'avoir pris le taureau par les cornes et d'oublier un peu les comités. Les autorités veulent que le chantier avance, du coup, elles ferment les yeux. Faval m'a demandé de tes nouvelles. Il est content d'Ishak, mais tu lui manques.
Richard sourit en repensant au petit charbonnier surexcité.
Je suis heureux qu'Ishak continue à lui acheter sa production.
Il y avait décidément beaucoup de braves gens dans l'ancien monde. Richard les avait toujours tenus pour des adversaires, et voilà qu'il était ami avec plusieurs d'entre eux. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cette expérience. Quand on les connaissait, tous les hommes se ressemblaient. Ils se rangeaient immanquablement en deux catégories. Ceux qui avaient soif de liberté et luttaient pour mieux vivre, et ceux qui se laissaient porter par les événements, convaincus qu'un chef ou un gouvernement prendrait soin d'eux. En échange d'un confort très relatif, ceux-ci renonçaient à tout ce qui faisait la valeur de la vie. Camille et Nabi se levèrent d'un bond et sourirent pour accueillir Richard.
« Nous avons travaillé sur nos sculptures, »
annonça Camille.
« Tu veux y jeter un coup d'œil ?»
Richard passa un bras autour des épaules de l'adolescent.
« Bien sûr, allons voir ce que vous avez fait aujourd'hui. »
Les trois amis gagnèrent la cour, où les deux garçons s'échinaient à sculpter des visages sur une bûche. Jusqu'à présent, le résultat n'avait rien de renversant.
« Eh bien, Camille, » dit Richard, « c'est pas mal du tout. » Toi aussi, Nabi.
Si rudimentaire que fût la technique des adolescents, leurs personnages souriaient, et cela suffisait à les rendre superbes aux yeux de Richard. Ces ébauches étaient plus vivantes que le travail des maîtres sculpteurs qu'il voyait chaque jour à l'œuvre sur le chantier.
C'est vrai?
Demanda Camille.
Tu penses que nous pourrions faire ce métier?
Plus tard, peut-être. Il vous reste beaucoup à apprendre, puis il faudra vous exercer, comme tous les artistes.
Regardez ce visage sur la droite. Quel est le problème, selon vous?
Je n'en sais trop rien,
avoua Camille après avoir étudié la sculpture.
Et toi, Nabi?
Il n'a pas l'air réel, mais j'ignore pourquoi.
Regarde mes yeux. Tu vois la différence?
Ils n'ont pas la même forme,
avança Camille.
Et ils sont plus près l'un de l'autre, pas de chaque côté de la tête,
ajouta Nabi.
Bien observé.
Richard lissa un petit carré de terre d'où on avait récemment retiré des carottes et y dessina du bout d'un index l'esquisse d'un visage. Vous voyez, en rapprochant les yeux, on obtient plus de réalisme. Les deux adolescents observèrent attentivement l'ébauche.
J'ai compris,
dit Camille.
Je vais faire une autre sculpture et elle sera meilleure.
C'est la bonne réaction, approuva Richard en tapotant l'épaule de son ami.
Un jour, nous pourrons peut-être travailler avec toi,
fit Nabi plein d'espoir.
Rien n'est impossible,
se contenta de répondre Richard. Il quitta ses amis et gagna sa chambre, où Nietzsche l'attendait, le repas déjà prêt. Sur la table, un bol de soupe fumait près de la lampe à huile.
Comment était le travail aujourd'hui?
Demanda la sœur de l'obscurité pendant que Richard se lavait les mains dans la cuvette.
Comme tous les jours. Et tu parviens à supporter ça?
Ai-je un autre choix? Je peux m'accrocher ou laisser tomber. Tu veux savoir si j'ai l'intention de me suicider?
Ce n'était pas le sens de ma question.
Richard s'essuya les mains et reposa la serviette près de la cuvette.
D'ailleurs, comment pourrais-je ne pas être content de l'emploi que tu m'as trouvé?
Victor t'a raconté?
Pas vraiment, mais c'était facile à reconstituer. Il m'a dit que tu étais très belle et que tu m'avais sauvé la vie.
Je n'ai pas pu faire autrement. L'ordre ne t'aurait pas libéré si tu n'avais pas eu une qualification.
Ce soir, Richard avait une conscience plus aiguë du ballet mortel que Nietzsche lui dansait jour après jour. Elle se sentait en sécurité derrière un bouclier bien commode,
avoir agi pour le sauver. Mais cela lui donnait en même temps l'occasion de voir comment il réagissait. Bref, elle poursuivait son étrange quête. La journée de travail avait vidé Richard de ses forces, et maintenant voilà qu'il devait se battre contre Nietzsche. Épuisé, il se laissa tomber sur son lit. La fatigue était un élément essentiel de toute bataille. Elle l'écrasait autant que lorsqu'il maniait l'épée jadis, et l'enjeu de son combat contre Nietzsche était le même que celui de ses précédentes guerres. La vie, la mort, la liberté. Un balai mortel, oui. Comme l'existence elle-même, au fond, puisque tout être vivant était tôt ou tard condamné à mourir.
Je veux te demander quelque chose, Nietzsche.
Quoi donc?
Sais-tu si Kalan est toujours vivante?
Bien sûr, je la sens en permanence à travers le lien.
Et elle n'est pas...
Richard, elle se porte très bien. Ne laisse pas cette angoisse te dévorer l'âme.
Richard dévisagea un long moment sa geôlière. Puis il baissa les yeux, s'allongea et se tourna sur le côté.
Je t'ai fait de la soupe. Tu devrais manger un peu après une si longue journée de travail.
Je n'ai pas faim.
Chassant Nietzsche de ses pensées, Richard tenta de se souvenir des magnifiques yeux verts de Kalan. Hélas, il s'endormit comme une masse.